Nous lisons dans le psaume 40. Psaume 40. Au chef des chantres de David, psaume. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié, Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis, voici je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Voilà un psaume très très important, un psaume de David. Alors, dans une autre version, là où chez nous s'écrit « J'avais mis en l'Éternel mon espérance », je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une autre version, c'est écrit dans une autre version « J'ai attendu patiemment l'Éternel ». Voilà. J'ai attendu patiemment l'Éternel. Moi, je veux prêcher là-dessus, sur cette version-là. J'ai attendu patiemment l'Éternel. Et cette deuxième version que nous avons tous, j'avais mis en l'Éternel mon espérance, va nous aider à interpréter c'est quoi attendre patiemment. Donc, en quelque sorte, c'est attendre avec espérance. J'avais mis en l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi. Et dans l'autre version, c'est écrit, j'ai attendu patiemment l'Éternel. Il a écouté mes cris, il m'a retiré de la force de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Alors, les deux versions sont importantes, parce que quand quelqu'un lit ici, c'est écrit « J'avais mis mon espérance en l'Éternel ». Et dans l'autre version, c'est écrit « J'ai attendu patiemment l'Éternel ». Quand on dit « Je mets mon espérance », ça donne l'impression qu'on doit être costaud, qu'on doit être rempli de foi, qu'on doit être fort, c'est comme ça après Dieu va agir. Mais quand on dit « J'ai attendu patiemment l'Éternel », on a plus l'impression, voilà, de quelqu'un qui se tient ferme sur quelque part. C'est pas forcément quelqu'un de fort, mais il reste dans un état d'esprit. Il reste dans une attitude que Dieu veut. Voilà. Il y a des moments où nous servons Dieu parce qu'on se sent fort. On se sent rempli du Saint-Esprit et on sert Dieu. Il y a des moments où Dieu nous demande de le servir juste par obéissance, fort ou pas. Quand Jésus-Christ à la croix sert Dieu, il est bien faible, il est crucifié. Mais il parvient quand même à dire à quelqu'un, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Il parvient quand même à dire à Jean, voici ta mère, et à Marie, voici ton fils. Donc il a quand même servi Dieu. Et je lis ce texte, non pas parce que j'ai reçu une force personnelle, une inspiration forte à donner ce message. Je donne ce message parce que, par obéissance, parce que c'est ce que j'ai reçu de donner. Voilà. Je n'ai pas de force personnelle pour la donner, pour le donner avec force, puissance, je ne sais pas quoi. Mais je dis, ben voilà ce que Dieu veut que nous écoutions aujourd'hui. Et j'obéis. Voilà, il dit, J'ai attendu patiemment le Seigneur. Et il est écrit au verset 3, il m'a retiré de la fosse de destruction du fond de la boue et il a dressé mes pieds sur le roc et il a affermi mes pas. Verset 4, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte et ils se sont confiés en l'Éternel. Alors on peut se dire, qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre? Il veut nous apprendre premièrement qu'il finira par agir par rapport aux gens qui attendent, qui s'attendent à lui. Il finira par agir. Il va se manifester. Donc il ne faut pas qu'on laisse tomber. Il faut continuer à attendre patiemment. Si on rajoute patiemment, s'il y a un état d'esprit qu'on peut appeler espérance, mais il n'y a pas que ça. Première leçon, c'est qu'il veut nous dire qu'il va agir. Il est Dieu, il est fidèle à sa parole. Lorsqu'on se confie en lui, on ne sera jamais confus. Il nous promet qu'il va se manifester, quelles que soient nos attentes. Nous, nous attendons le réveil en Normandie. Certains attendent des guérisons, d'autres attendent des délivrances, d'autres encore attendent des mariages et autres. Le Seigneur finira par agir. Il est bon envers nous et la parenthèse de l'attente n'est pas là pour nous embêter. Il y a un objectif. Vous voyez, dans la Bible, il y a des lépreux qui sont venus voir Jésus. Jésus les a guéris, mais il y a un seul qui est venu louer l'Éternel. Un seul est venu. Jésus a dit, ah, de ce 10-là, il n'y a qu'un seul, il n'y a que ce Samaritain qui vient louer Dieu. Va, tu es sauvé. Les autres, ils ont été guéris, mais ça n'a pas contribué à la louange de l'Éternel. Deuxième leçon, c'est que quand Dieu va agir avec ceux qui attendent dans cet état d'esprit-là, qu'est-ce qui va se passer? Au verset 4, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte. Ils se sont confiés en l'Éternel. Dieu est en train de nous préparer à ce que la bénédiction serve à sa louange et non pas à réjouir la chair. Il nous prépare à cela. Ça peut prendre du temps parce que l'homme est compliqué et la bénédiction peut être trop grande pour un homme charnel. Et Dieu nous prépare de sorte que la louange serve à sa gloire. Quand la maman de Samuel a attendu, a demandé l'enfant, ça a pris du temps parce qu'elle était dans un mauvais état d'esprit. C'est pourquoi on dit, j'ai attendu patiemment l'Éternel. Patiemment là, ça veut dire, il y a une attitude de patience. Donc je m'attends à Dieu, je le laisse faire, je n'exige pas, je prie. Mais je ne lui mets pas, je ne lui donne pas les instructions. Je ne lui fais pas de chantage. Il y en a qui font du chantage à Dieu. Si tu es Dieu, fais ceci. Dès qu'on met si, on est dans le chantage. C'est ce qu'on a voulu faire à Jésus. Quand on lui a dit, si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Il a dit, je suis patient. Je mangerai quand mon Père voudra. Pourtant, les 40 jours étaient bien passés. Mais il y a eu un chantage. Il dit, je ne cède pas au chantage. Si tu es fils de Dieu, fais ceci. On ne peut pas faire des chantages à Dieu. Et ça nous arrive. Ça nous arrive. Oui, mais Seigneur, tu es Dieu. Si c'est ça, donc il faut que... Non. On doit répéter la parole à Dieu. C'est ça l'attitude qu'il attend de nous. Ésaïe 43, 26. Il dit, plaidez avec moi. Répétez avec moi ma parole. Mais il ne nous dit pas de lui faire des chantages. Si, non. On doit dire, Dieu, tu as promis ceci. Dieu, tu es ceci. Tu es cela. Et nous voulons voir cela. Donc, il ne faut pas faire des chantages. Si, si. Et Dieu savait que s'il donnait l'enfant au moment où la maman de Samuel attendait, ça serait pour, pas pour la gloire de Dieu, ça serait pour sa gloire à elle de dire, je peux enfanter. Parce que son problème, c'était la première femme de son mari qui en avait 10, elle n'en avait rien du tout comme enfant. Donc, elle était meurtrie à cause de cela. Et elle attendait l'enfant pour être socialement considéré, pour être socialement établi. Et donc, si Dieu avait donné l'enfant en ce moment-là, ça n'allait pas tourner à la gloire de Dieu. Dieu voulait épuiser les convoitises charnelles de cette femme à travers une attente qui allait la pousser à chercher la face de Dieu. Voilà. Donc, l'attente dont il s'agit là, c'est une attente qui nous amène vers Dieu. Ce n'est pas une attente passive dans la tristesse, non. Une attente qui nous amène à chercher Dieu. Avant, on cherchait du pain. Avant, on cherchait une voiture. Finalement, on saisit Dieu lui-même. Et on est plus que béni parce qu'on a saisi Dieu lui-même. C'est cette attente-là. Comme on a lu le jeudi sur Jacob, Jacob, finalement, il voulait la délivrance par rapport à son frère. Finalement, il saisit Dieu. Et quand il saisit Dieu, il sait que tout est réglé. Tout est réglé. Donc, Dieu veut qu'on le saisisse, lui. Et donc, il peut permettre cette attente pour qu'on saisisse son plan, qu'on saisisse ce qu'il veut de nous, qu'on saisisse ce qu'il veut faire avec nous pour la bénédiction peut-être d'un plus grand nombre. Nous, si on ne regarde qu'à nous, on va se limiter et on va bloquer le plan de Dieu qui Dieu n'est pas égoïste et il ne veut pas qu'on soit égoïste et qu'on ne pense qu'à nous. Il nous inclut dans un plan où il y a d'autres, il y a des implications sur d'autres personnes. Et nous, dans notre prière, on ne pense pas à tout ça. C'est pourquoi l'attente peut être là pour nous permettre de chercher la face de Dieu et finalement de recevoir le message du Seigneur. C'est cela, bien-aimé. Et le Seigneur sait que certains ne sont pas encore prêts à lui rendre gloire après la bénédiction. Ils vont s'atteler à montrer clairement que maintenant, ils sont changés. Maintenant, ils étaient paralytiques, ils marchent. Ils étaient aveugles, maintenant je vois. Mais ce n'est pas gloire à Dieu, mais maintenant je vois. Et le monsieur pour qui Pierre a prié, quand il a dit, je n'ai ni or, ni argent, ni or, mais ce que je te le donne, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ce monsieur, il est écrit, il a commencé à sauter et à louer Dieu. Il y a des gens qui m'ont demandé souvent, mais Jésus délivrait, guérissait, les apôtres guérissaient, délivraient parfois des gens qui n'étaient pas chrétiens. Oui, dans un certain sens. Mais c'est des gens que Dieu avait préparés pour sa louange. Et on le voit, puisque cet homme a commencé à sauter et à louer Dieu. Mais est-ce que les chrétiens d'aujourd'hui penseront à ça? Je crois qu'il y a un travail que Dieu est en train de faire pour nous changer. Nous avons été pollués par une éducation égoïste, égocentrique, où l'homme pense à lui. Dieu veut nous dépolluer. Et il peut permettre des attentes comme ça. J'ai attendu patiemment l'Éternel. Et il m'a sorti de la boue. Mais le temps d'attente doit servir à chercher la face de Dieu, doit servir à se préparer à louer Dieu et non à louer l'homme, et non à tomber dans la vantardise, et non à tomber dans le consumérisme, donc où on va consommer. Maintenant que je suis comme ça, je peux consommer maintenant. Non. Maintenant, c'est comme ça qu'on a vu beaucoup de gens changer. Dieu les a bénis et ils ont changé. Ils sont devenus mauvais. Il y a des gens qui étaient... Ils donnaient facilement aux autres. Mais dès qu'ils sont devenus riches, ils sont devenus très durs. Très durs et fermés. Alors que quand ils n'étaient pas riches, ils donnaient facilement. Dès qu'ils sont devenus riches,
Voilà.
C'était maintenant la glorification personnelle. Et donc, il cherche à rester riche, d'où l'avarice, d'où le calcul démesuré. Et finalement, la bénédiction les a tués. Dieu ne veut pas ça pour nous. Dieu ne veut pas quand même que la personne qui a eu foi en lui puisse finir mal. Donc, il tient à notre salut plus qu'à la bénédiction qu'il peut nous offrir. Et donc, il veille en sorte que la bénédiction aille ensemble avec notre élévation spirituelle, notre proximité avec lui afin que ça soit bien géré. Et mais nous, on ne comprend pas. Donc, l'attente comment ? L'attente pour se préparer à rendre gloire à Dieu. Donc, c'est ça que le Seigneur veut. Il dit au verset 4, « Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu, ont eu de la crainte et se sont confiés en l'Éternel. » La conséquence, quand maintenant on loue Dieu, beaucoup peuvent voir que c'est Dieu qui a fait. Au lieu que juste les gens disent, ben tiens, ah maintenant il a un enfant, c'est, voilà, maintenant il a ceci, maintenant il est guéri, et il est devenu fier, hein, maintenant qu'il a ceci, bon, on ne le voit plus assez. Ça ne contribue plus à la gloire de Dieu. Mais là, il a mis un cantique. Donc, dès que la chose est arrivée, allez, la louange à Dieu. Et là, et les gens disent, mais c'est son Dieu qui a fait ça. Quel est ce Dieu? Et c'est ainsi que... C'est ce qui est écrit. Hein. Au fait, les psaumes de David sont en même temps des enseignements. Il dit, beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte. Hein, la crainte pour Dieu. Et ils se sont confiés en l'Éternel. Voilà la conséquence d'une bénédiction bien attendue. Bien entendu, l'attitude dans l'attente est très importante. Donc quand on attend de cette manière-là, on attend dans le but de s'approcher, en s'approchant en même temps de Dieu. On attend en s'attendant à l'action divine pour le glorifier, les choses changent. Quand Dieu agit, ben, on peut vraiment, les gens, on peut le louer. Parce qu'on se dit, j'ai attendu. Le fait de dire j'attends, c'est que ce n'est pas toi qui agis. Parce que si c'est toi qui agissais, tu n'attendrais pas. Tu agis. J'ai attendu patiemment. Ça veut dire, j'attendais que quelqu'un d'autre agisse. Et donc, quand il agit, je le loue. Mais lorsque l'attitude est mauvaise, on va bricoler, on va faire ceci. Qu'est-ce qu'on va dire? Ah, j'ai beaucoup prié, c'est pourquoi j'ai eu telle chose. J'ai beaucoup fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait... Finalement, pardon, Dieu m'a entendu. Il a fait... Non. Mais quand quelqu'un a attendu, c'est-à-dire il a laissé Dieu faire, c'est-à-dire qu'il a, il a compris qu'il était faible et que c'est Dieu qui agissait, quand Dieu agit, il va parler de Dieu. Il ne va pas parler de ce que lui, il a fait pour recevoir la bénédiction. Mais il va dire, Dieu m'a béni. Il va louer Dieu. C'est pourquoi quand on voit la plupart des guérisons de Jésus, ce n'est pas des gens qui étaient hyper spirituels. Il n'a pas guéri, sauvé des gens qui étaient des grands intercesseurs. Mais c'est des gens qui attendaient. Des gens qui attendaient, qui étaient faibles, qui étaient humbles, ce monsieur que ça faisait 38 ans, il était sous la piscine de Bethesda. Mais il attendait quand même, voilà. C'est le troisième élément. Ça nous apprend que, quand on dit, j'ai attendu, qu'est-ce qui est écrit au verset 2, j'avais mis en l'Éternel mon espérance, donc je sais qu'il agira. Je sais qu'il agira. Il attendait quand même 38 ans. Il attendait que l'eau bouge. Donc il s'attendait à Dieu. Et c'est Dieu qui vient agir. Donc il faut qu'on se mette en tête qu'il agira. Et là, il est écrit, heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Verset 5. Pourquoi ce verset est écrit? Parce que, en s'attendant à Dieu, ça finit par devenir aussi un moment de murmure et de critique contre Dieu. Si on ne fait pas attention, notre chair est faible. Le premier péché a été l'orgueil. Le premier péché, ça a été l'homme qui résiste à Dieu, qui dit, mais non, mais moi je veux faire autrement. Et à force d'attendre quelque chose, ça devient comme un embêtement pour notre chair. On se dit, mais pourquoi Dieu m'embête? Pourquoi il ne me donne pas ce dont j'ai besoin? Il voit quand même que j'en ai besoin. Et là, on peut même s'afficher comme étant saint devant Dieu pour dire, mais il a peur de quoi? Que je ne glorifie pas? Il a peur de quoi? Que je retourne dans le monde? Mais non, mais moi je suis à lui, je l'aime. Moi j'ai parlé à quelqu'un, il m'a dit, mais non, mais moi je suis correct avec Dieu, je ne vois pas, parce que je lui ai dit, mais ça fait un moment qu'on prie pour telle chose. On a chassé tous les démons qu'on pouvait chasser. Maintenant, n'y a-t-il pas matière à ce que tu médites avec Dieu pour lui poser la question, pourquoi Dieu tu me résistes? Ah non, mais moi je ne vois pas. Quel problème? Moi, je n'ai pas de problème avec Dieu. Moi, je dis non, mais là, on a un souci. Ça fait un moment qu'on prie pour quelque chose, ça ne vient pas. Et on a, en matière de péché, on les a tous cités. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as encore fait, mais on a tous cités. Les démons, on les a tous cités. Maintenant qu'on a fait tout ça, puisqu'après tout, c'est Dieu qui est tout puissant. Il peut délivrer quiconque, il peut guérir quiconque. Mais est-ce que ce n'est pas le moment de lui poser la question, pourquoi Dieu tu me résistes? Ah non, 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 non. Voyez, donc l'homme peut dire, non, non, mais je suis bien, je ne comprends pas quel est le problème. Et c'est ce que Dieu dit dans Jérémie 18, l'histoire du potier. Le potier a fait un vase, ça n'a pas marché. Il a fait encore le tas avec le vase pour refaire un autre. Et Dieu dit, Israël, n'aurais-je pas le droit de faire avec vous comme le potier a fait avec le vase? Pourquoi Dieu dit ça? Parce que quand Dieu veut modeler Israël, Israël dit, mais non, on est déjà ton peuple. Et je sais que les chrétiens disent à Dieu, mais je suis déjà chrétien, il veut m'enseigner quoi encore? Je suis déjà son peuple. Et Israël dit, il veut nous modeler dans quoi on est déjà son peuple. Dieu dit, ah, mais n'ai-je pas le droit de faire comme le potier fait avec le vase? Il a fait une fois, ça n'a pas marché, il refait. Donc vous m'enlevez ce droit-là. Donc nous sommes dans le cadre du verset 5, les hautains et les menteurs. Je vous dis, c'est la vérité. On tombe dans ça, dans l'attente parfois. On tombe dans le mensonge parce que on traite Dieu d'une manière indirecte, de méchant, de quelqu'un qui ne voit pas. On tombe dans l'orgueil, on devient hautain en prétendant qu'on n'a pas de problème, on est sans péché, on est correct, on fait ce qu'il faut. Mais si on est 100% bon, donc on est Dieu. Dieu a quelque chose toujours à faire avec nous. Il y a toujours un travail. C'est important d'accepter que il y a un travail en moi. Et de dire, Seigneur, voilà. Le Seigneur Jésus nous parle de deux personnes qui se présentent devant Dieu. Le pharisien qui dit, ah, moi je suis correct. Pas de problème. Donc jeûner, je jeûne. Donner la dîme, je donne. Et l'autre disait, ah, Seigneur, je ne suis pas digne d'être là devant toi. Et Jésus dit, le deuxième, c'est lui qui est parti justifié. Voilà. Il y a toujours un travail à faire dans nos vies. Il y a toujours des corrections à faire. Il y a tout... Quand le jeune homme riche se présente devant Jésus, il est sûr de lui. Il sait que c'est bon. J'accomplis la loi. Je ne sais pas qu'est-ce que... C'est, au fait, c'est...
un affrontement. Voilà. Est-ce que Jésus pourra m'arrêter? Qu'est-ce qu'il peut encore me dire? Je fais tout. Jésus lui dit, vends tout tes biens et suis-moi. Voilà. Parce qu'on peut croire qu'on fait tout, mais on fait tout selon notre intelligence. On peut croire ça. Voilà. Et c'est pourquoi on a déjà prévenu Marie. Ouais, mais ton cœur sera transpercé. Quand il a amené Jésus au temple, on dit, ton cœur sera transpercé. Ne crois pas que... Bon, t'as déjà... Marie pouvait dire quoi? Mais j'ai déjà eu la honte de porter un enfant. Alors que moi et ma mari, on ne s'est pas connus. J'ai eu déjà la honte. 3 jours, il a disparu comme ça. Comme quoi il est parti faire le rôle de son père. Voilà. J'ai déjà beaucoup de misère comme ça. Il a quitté la famille, il est parti prêcher. Il pouvait dire, c'est bon, j'ai subi ce qu'il fallait. Mais non, c'est la croix l'attendait encore. On peut croire qu'on a déjà expérimenté les pires de souffrance. Et souvent, quand nous, on est dans l'attente, on a l'impression que dans le monde entier, il n'y a que nous qui attendons comme ça. Il n'y a que nous qui sommes brisés comme ça. Il n'y a que nous. Mais quand on prend les écritures en feuillette, on se rend compte, ah, il y a eu des costauds, hein, il y a eu Joseph qui est resté des années, loin de sa famille, injustement, rejeté par ses frères, en prison. Vous savez, Joseph pouvait se défendre pour dire, non, c'est la femme de Potiphar qui l'a voulu, c'est pas moi, mais il a laissé... Joseph pouvait aussi profiter de la femme de Potiphar et demander pardon après, comme beaucoup font. Mais non, il n'a pas fait. Quelle souffrance, la vie de Joseph. Quand on vit les événements avec Dieu, on se croit le plus malheureux, le plus maltraité. Et on se dit, mais pourquoi Dieu m'embête? Pourquoi ne fait-il pas les choses simplement? Je vais vous donner la raison. Parce que on a un problème, le plus grand problème de l'homme, c'est l'orgueil. L'orgueil de l'homme est très, très élevé. Je dis, ah ben, je ne sens pas ça, moi. Oui, mais ton ancêtre Adam l'a manifesté clairement. Il a voulu être comme Dieu. Et il t'a laissé ça en héritage. Et en toi, en moi, il y a des moments où on conteste, on est hautain vis-à-vis de Dieu. Parfois, c'est indirect. C'est cette affaire-là que Dieu veut vaincre. Mais les gens disent, je vais vous donner un exemple, mais Jésus, lui, il était parfait. Pourquoi Dieu l'a embêté? Pourtant, lui, il était parfait. Il dit, ah ben lui, ça, je vais vous donner l'exemple le plus grave. Parce que nous, on est pécheurs. On a hérité. Mais Jésus est né sans péché. Mais pourtant, lui aussi, il a été, entre guillemets, embêté. On le laisse entre les mains des forces des ténèbres. Pourtant, Dieu, quand il avait demandé à David de l'embêter parce que David n'avait pas obéi, il avait donné 3 possibilités à David. Tu tombes entre les mains des ennemis, tu reçois une maladie dans le peuple, dans Israël, ou la famine. David a dit, la maladie ou la famine. Je ne veux pas tomber entre les mains de mes ennemis parce que les hommes sont cruels. Mais si les hommes sont cruels, les démons le sont encore plus. Vous voyez, Dieu a écouté David, il a envoyé la maladie. Mais quand c'est arrivé au tour de Jésus, non, c'était... Jésus a dit, maintenant c'est l'heure des ténèbres. Donc Jésus s'est donné comme ça, entre les mains des humains et des démons. Il dit, c'est l'heure des ténèbres. Pourtant, c'est lui le saint, le pur. Alors, pourquoi Dieu l'embête comme ça? Parce qu'il fallait qu'il soit vainqueur là où Adam a échoué. Adam a échoué à accepter Dieu comme son chef. Il fallait que Jésus soit vainqueur. Et quand on est embêté comme ça, on dit, que ta volonté soit faite, ça veut dire qu'on a reconnu Dieu comme chef. Et ça, c'est la plus grande victoire qu'un homme peut expérimenter. C'est la plus grande victoire, céder vis-à-vis de Dieu. C'est la plus grande victoire.
C'est pourquoi Dieu nous amène dans tout ça. Il y a un chant, on va essayer de le chanter en anglais ou en français. It is well with my soul. Ça veut dire, tout est bien pour mon âme. Ça a été composé par un homme qui a subi toutes les souffrances. Alors, j'ai le texte, mon téléphone, bon, je l'ai là. Je vais lire le texte. Et, mais cet homme a fait le chant, « It is well with my soul ». Parce qu'on pourrait se dire, « Mais moi, j'ai déjà subi tous les brisements. Dieu n'a pas vu que j'étais humble. » Mais non, Dieu sait qu'il y a encore une semence. Il sait. Et Dieu sait que ce qu'il prépare à faire avec nous, avec cette semence d'orgueil, ça ne va pas amener la louange pour son nom. Ça va amener et notre destruction et la destruction d'autres personnes. C'est pourquoi il veut faire un travail. Il veut faire un travail. On ne sait pas tout. Notre problème, hein, la différence entre nous et Dieu, on est presque Dieu, entre guillemets. Parce que tout ce qu'on demande, il nous donne, il l'a dit. Mais si tout ce qu'on demande, il peut nous le donner, la différence entre nous et lui, c'est que nous, on n'a pas l'effectivité. C'est-à-dire que lui, quand il dit « je t'ai donné », il voit la chose. Mais nous, on a un laps de temps pour voir parfois. Et c'est ce laps-là qui nous embête. C'est cette attente-là. C'est pourquoi le texte dit « J'ai attendu patiemment ». Au fait, on est très puissant. C'est pourquoi Dieu même, lui-même le dit. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Puisqu'il dit dans Marc 11, 24, « Tout ce que tu demandes, je te le donne. » Crois et tu le verras s'accomplir. Mais ça fait de nous des gens extraordinaires. Donc je peux. D'ailleurs, c'est écrit dans Psaume 2:7. Demande-moi les nations, en héritage, je te les donnerai. C'est grave, je peux demander l'Inde. Dieu dit qu'il me le donne. Mais la différence, c'est le temps. Et c'est là qu'on revient dans notre texte. J'ai mis mon espérance à l'Éternel, ou dans la version dont je vous parle, j'ai attendu patiemment l'Éternel. On est dans cette attente patiente. Dieu veut casser notre orgueil. Il veut casser notre orgueil. Ça l'empêche d'agir pleinement. Et il a fait avec son propre fils. Il a voulu, alors que lui n'était sans orgueil. Mais Adam aussi était sans orgueil, puisqu'Adam a été créé beau. Mais il a voulu, sous l'influence du diable, rivaliser avec Dieu. Et Dieu s'est battu aussi contre son fils pour dire, qui est le chef, toi ou moi? Jésus a dit, c'est toi. C'est pourquoi tout ça s'est multiplié jusqu'à Gethsémané. Et Jésus a dit, bon. Parce que tant que c'était une histoire de miracle, on peut dire, ah ben Jésus arrivait à obéir, hein. S'il ne fallait pas faire le miracle, il ne faisait pas. Il obéissait toujours à son père. Lui-même, il dit, je ne fais que ce que je vois mon père faire. Pas de problème. Et d'ailleurs, nous, on obéit dans plein de choses. Parfois, tu veux t'acheter une voiture, tu n'achètes pas par obéissance. Mais ça va arriver dans des choses qu'on n'avait pas prévues. Que ça nous arrive. Et c'est là que Dieu veut voir qui est le chef. Il veut finalement qu'on sorte de notre bouche, Seigneur, tu es le chef. Fais ce que tu voudras de moi. Mais j'ai mis mon espérance en l'Éternel. On ne le dit pas dans une logique de défaitisme, mais on le dit parce qu'on a compris qu'il y a une lutte. La lutte entre Adam et Dieu, c'est nous qui avons hérité de ça. Ben, cette fois-ci, nous, on va être vainqueurs, on cède vis-à-vis de Dieu. Mais on le dit aussi dans une attente rempli d'espérance, on sait que Dieu agira. On le dit aussi dans une conviction que Dieu est amour, il nous fera du bien, finalement. On se dit aussi dans une conviction que Dieu est tout puissant, il fera ce qu'il a promis dans sa parole, qui est l'objet de notre attente. Voilà. Ce n'est pas dans un esprit de défaitisme. Et Jésus a subi ça. Et Jésus a été vainqueur. Il a dit que ta volonté soit faite. Voilà. C'est toi le chef. Et pourquoi nous ne subirions pas ça si Jésus lui-même a subi ça? C'est que nous, on sent comme un embêtement. Jésus a subi ça. Lui qui est parfait, saint, mais livré entre les mains des forces des ténèbres. C'est ça la réalité.
Ce que nous, on ne comprend pas, on dit, mais pourquoi il me fait ça alors que nous, on a des péchés? Mais Jésus pouvait dire ça encore des millions de fois plus que nous, puisque lui, il était sans péché. Mais il fallait qu'on sache qui est le chef. Le chef, c'était Dieu. Dieu veut qu'on lui dise, ben Seigneur, dispose de moi comme tu le voudras. Donc je lis pour clôturer, parce qu'il y a beaucoup à dire. Alors, la chanson « Tout va bien avec mon âme », en anglais c'est « It is well with my soul », a été écrite par un avocat chrétien nommé Horatio Spafford. Son fils unique mourut à l'âge de 4 ans en 1871. En 1872, le grand incendie de Chicago effaça son vaste domaine, fruit d'une carrière juridique réussie. En 1873, il envoya sa femme et ses 4 filles en Europe en voyage d'été sur la malheureuse, un bateau SS Ville du Havre. Comme il avait beaucoup de travail à faire, il avait l'intention de les suivre plus tard. Le navire a coulé et il a perdu ses 4 filles. Seule sa femme avait survécu. Elle lui envoya un fameux télégramme qui disait simplement « Seul sauvé ». À son retour, son cabinet d'avocat a été incendié et la compagnie d'assurance a refusé de le payer. Ils ont dit, la compagnie d'assurance, c'est un acte de Dieu. Il n'avait plus de boulot ni d'argent pour payer sa maison. Alors tout en étant assis et pensant à tout ce qui lui arrive, en étant une personne spirituelle, il a écrit la chanson. Quoi qu'il arrive, mon Seigneur, tu m'as appris à dire, tout va bien avec mon âme. It is well with my soul. C'est ça, bien-aimé. Dieu veut nous amener dans les lieux élevés. Voilà. Je ne suis pas meilleur que vous. J'annonce la parole de Dieu. Un point, c'est tout. Soyons à son écoute et laissons-le nous travailler au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Seigneur, nous voulons te laisser nous travailler car tu as un travail à faire avec nous. Nous ne le saisissons pas complètement, mais nous te faisons confiance. Et nous laissons diriger par toi, selon le plan formulé par toi, formé par toi. Nous ne voulons pas rivaliser avec toi et tout contrôler, ce qui a été le péché de notre ancêtre, de notre père, Adam. Nous voulons céder comme Jésus avait cédé. Car dépassé par le déchaînement de forces humaines et de ténèbres sur lui, il a dit, Père, si tu voulais bien ôter la coupe, mais il s'est dit, ah, dispose-toi de moi, dispose de moi, Père, comme tu voudras. Voilà, car il y a un seul chef, un seul Dieu. C'est vrai, Seigneur, que nous avons des sujets à nous plaindre. Mais nous croyons que tu es bon et tu es amour et la fin sera heureuse. Nous le croyons. Nous croyons en ta parole et nous te disons aujourd'hui, Seigneur, soutiens-nous. Aide-nous à t'obéir parce que c'est ça notre grand problème. Aide-nous à te laisser disposer de nous. Et Seigneur, corrige-nous pendant ce temps d'attente, purifie nos cœurs. Et nous croyons, Seigneur, que nous sortirons de la boue pour avoir les pieds sur le rocher.
Merci.
À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen.
Amen.